Et ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles, aller dans le livre de Timothée. On est dans notre série dans le livre de Timothée. Cette épître pastorale est écrite à un jeune pasteur il y a de cela 2000 ans près, où ce que Paul est en train d'équiper, de donner des consignes à un jeune pasteur auquel il a laissé une église à Éphèse, une église avec un grand héritage. L'église d'Éphèse était une église qui avait eu de grands pasteurs comme Paul, qui avait fondé l'église, des pasteurs qui vont suivre après ça comme l'apôtre Jean. Et là, Timothée est là dans cette période de croissance de l'église. Apollos est passé par là, l'évangéliste. Et Éphèse prend une place importante dans les Écritures par le fait qu'il y a un épître au complet qui est consacré. On en parle beaucoup dans Actes des apôtres aussi, des événements importants. Un grand sermon de Paul se fait justement à Éphèse, auprès des anciens, dans Actes 20. Et donc, Éphèse a une place importante, plus que beaucoup de villes grecques qu'on mentionne. Celle-ci émerge beaucoup dans l'intérêt qu'on y porte. Et Timothée a besoin de consignes sur plein de sphères de l'Église. Et ce matin, on va parler d'une sphère de l'Église qu'on ne parle pratiquement jamais, les veuves. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un sermon sur les veuves? Levez pas toutes vos mains en même temps. Et j'ai jamais prononcé non plus un sermon sur les veuves. Fait que vous êtes pas tout seul. Parce qu'évidemment, dans le Nouveau Testament, le mot veuve est mentionné 27 fois et le tiers de ces références sont là. Dans ces quelques versets qu'on va lire ce matin, au chapitre 5, la première moitié, le tiers des références aux veuves dans le Nouveau Testament se trouve là. Il y a une concentration d'informations que Paul trouve important que, comme chrétien, on ait comme information sur la gestion, la prise en charge, l'assistance auprès d'une catégorie de femmes de l'Église qui sont vulnérables. Et particulièrement à cette époque-là, évidemment. Aujourd'hui, une femme veuve a souvent une assurance vie de son mari qui est décédé, a une pension, le gouvernement offre toutes sortes de services sociaux de toutes sortes. Il y a des possibilités d'emploi variées selon l'expérience, etc. On est dans un monde nord-américain d'une grande abondance où les services sociaux, et je dirais même où ce que, comme citoyen, on se déresponsabilise beaucoup dans beaucoup de sphères de nos vies, que ce soit les enfants, l'éducation, les veuves et bien d'autres choses sociales qui sont données des mains de l'État. Et il y a du bien dans cela, dans les grandes civilisations du monde entier. Vous savez, à l'époque même, il y a 4000 ans, on retrouve des écrits, par exemple en Mésopotamie, il y a 3200 ans, en Égypte, ou même chez les Syriens, des rois qui ont montré des préoccupations. C'était normalement dans un pays de l'Antiquité, la responsabilité d'un roi d'être bienveillant envers les gens nécessiteux et de mettre des règles, des choses pour protéger. Un bon roi allait avoir normalement dans ses mœurs et dans ses valeurs le fait d'être le protecteur des veuves, des orphelins, des gens vulnérables. Mais évidemment, tout ça fluctue d'une époque à l'autre, d'un roi à l'autre, d'un peuple à l'autre. Et nous, on est dans un autre excès où ce que là, c'est l'État qui prend en charge tout cela. Et parfois, il est facile pour le croyant, tout comme le n'importe quel citoyen, de se déresponsabiliser envers les gens de sa famille. Et pour toutes sortes de raisons très variées, on en adressera quelques-uns ce matin. Et le Seigneur, dans les Saintes Écritures, dans la vie de son apôtre Paul, l'inspire du Saint-Esprit pour adresser ce sujet important dans l'Église, d'adresser les veuves. Et ici, on pourrait parler des veuves, mais dans les veuves, j'inclurais aussi beaucoup de nos personnes seules, dans les dames seules, qui peuvent être seules pour toutes sortes de raisons variées. Parfois, certaines sont veuves depuis 50 ans. On trouve ça moins souvent chez les hommes. J'ajouterai pas de commentaires là-dessus. C'est un fait qu'on observe. Beaucoup plus de femmes vont porter le veuve et continuer. Les hommes, c'est plus difficile souvent et se remarient beaucoup plus souvent que chez les femmes. Et on retrouve aussi dans l'Église une grande importance qu'ils avaient, ces femmes, dans leur rôle dans l'Église, dans l'histoire de l'Église primitive, des femmes veuves qui avaient un rôle aussi important que les pasteurs et les diacres et diaconesses dans l'Église, dans le service auprès des gens. Et je dois vous dire que j'entends souvent dans l'Église, lorsque je fais des visites, régulièrement j'entends, lorsque je parle surtout à des femmes seules, des veuves ou des femmes célibataires d'un certain âge, j'entends souvent des noms de femmes dans l'Église que vous ne sauriez jamais, qu'on n'entend pas parler de elles. mais qui visitent, qui viennent faire un transport, qui vont aider, qui vont prier avec une femme par un appel, qui viennent faire une visite, vont accompagner, chercher des médicaments pour aider une autre dame. Vous n'entendrez jamais parler, en toute discrétion. Et quand j'entends ça, je vous avoue, comme pasteur, ça me rend extrêmement fier de l'Assemblée. De voir des dames qui se prennent soin les uns les autres, qui visitent, qui vont encourager, qui viennent donner un coup de main en se disant pas, ah, oh, ben ça, c'est la job des diacres. Ah, oh, ça, c'est la job de leur famille. Ah, oh, ça, c'est la job des pasteurs. Ou ça, c'est la job... Non. On est une... Dites-le encore. Famille. On est une famille. Et Paul nous dit, on doit prendre soin des nôtres dans l'Église, dans le corps de Christ. Et aussi des nôtres physiquement, dans notre famille, qu'ils soient chrétiens ou pas aussi. Et donc, un texte entier nous est consacré ici à cette question-là. Et avant même de parler des veuves, il va émettre ces deux versets que j'aimerais qu'on lit ensemble avant de lire sur les veuves. Il dit au chapitre 5, verset 1. Ne reprends pas avec dureté, et même le mot a une idée de violence, ou en frappant quasiment, un vieillard, mais exhorte-le comme un père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes filles comme des sœurs en toute pureté. En toute pureté. Je lisais cette semaine une situation pastorale qu'un pasteur dans un ministère aux États-Unis partageait, qu'il a vécu récemment. Une femme qui lui a été présentée de 42 ans, qui était entrée dans son bureau et qui désirait vraiment à 42 ans trouver un époux. Et c'est, évidemment, c'était très pesant sur son cœur, cette lutte avec la solitude. Et là, elle était tombée en amour avec son patron. C'était une chrétienne, elle savait que c'était pas bien. Et là, elle est en lutte avec ça et elle ouvre son cœur auprès de cet homme à partager ce qu'elle est en train de vivre, cette lutte honnête intérieure qu'elle vivait. Elle avait grandi dans un foyer où ce que le père l'avait dépourvu complètement d'aucune affection. Et son frère la taquinait, mais cruellement. Et elle manquait beaucoup d'attention dans son enfance. Et lorsque s'est consacré au Seigneur, elle savait qu'elle devait respecter certaines limites, mais là, elle était dans une lutte intense avec ce patron qui lui faisait des avances et pour lequel elle avait une faiblesse intérieure par des manquements familiaux qu'elle avait eus. Et qu'elle luttait. Elle luttait. Elle en parla honnêtement. Et après avoir parlé, Karen et moi, le pasteur dit, nous avons baissé la tête et dans la prière, dans une prière très crue et puissante, dans le sens cru avec une profonde conviction, Karen a confessé sa tentation. A déclaré à son patron, devant Dieu, que son patron était hors limite. Et a remis ce désir entre les mains de Dieu. Et elle a quitté la pièce en se sentant tellement plus légère d'avoir pris cette décision, d'avoir ouvert sa lutte en toute honnêteté, devant sa vulnérabilité. Et ce jour-là, le pasteur dit ceci, « J'ai compris l'importance du conseil de Paul de traiter les uns les autres comme des frères, comme des sœurs dans la famille de Dieu. La façon dont nous voyons les gens détermine la façon dont nous agirons avec eux. Et dans un monde prompt à objectiver, à sexualiser, objectiver, oui, dans le sens de rendre les gens des objets, le fait de considérer le sexe opposé comme une famille nous aide à la traiter avec soin et bienveillance et respect. Des frères et des sœurs saints ne s'abusent pas l'un l'autre, ne se séduisent pas l'un l'autre. Karen n'avait pas connu des hommes qui des hommes qui la rabaissaient, et la rendaient vulnérable, qui l'utilisaient ou l'ignoraient et avait besoin de quelqu'un, d'une famille dans laquelle elle trouverait des frères et des sœurs qui remplirait ce besoin en attendant que Dieu la conduise. Et c'est la beauté, vous savez, de l'Évangile. C'est qu'on se retrouve ensemble dans la famille de Dieu avec des frères et des sœurs. J'aimerais vous rappeler un texte important j'ai prêché dessus il y a un an environ au mois d'avril, et je vous lis ces paroles de Jésus dans Marc chapitre 10, versets 29 et 30, qui dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, et ses frères, et ses sœurs, et sa mère, et son père, ou ses enfants, ou sa terre, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Dans ce siècle-ci, le Seigneur promet que celui qui se convertit à Jésus-Christ, qui prend Jésus, qui prend le Père céleste comme Père, va trouver déjà dans cette vie, avant même d'aller dans la vie éternelle, une famille spirituelle qui va remplir ses fonctions de frère et de sœur. Saviez-vous que vous avez été promis à quelqu'un comme frère et comme sœur? Vous n'êtes pas seulement des récipients pour recevoir la promesse de Dieu que moi je réclame un frère, une sœur. Non. Est-ce que tu réclames ta place d'être un frère, une sœur, un fils, une fille pour quelqu'un ici? Et c'est ce qui nous parle ici. Là, je vais vous demander une question extrêmement exigeante. J'aimerais vous regarder au verset 1 et 2. Et j'ai étudié beaucoup d'années pour être capable de vous poser ce genre de questions-là et de dire ce que je vais vous dire, mais j'aimerais vous inviter à regarder, il y a un mot commun important ici qui nous aide à comprendre ce que le texte est en train de nous dire. Il y a un mot qui est répété dans les versets 1 et 2. Quelqu'un peut me le dire à haute voix, sans gêne. Comment? Non, désolé. Ah, j'ai entendu un mot, là. Dis-le bien fort. Comme. J'ai étudié bien des années pour être capable de vous dire ça ce matin. Pour dire des affirmations perspicaces sur un texte biblique. Le mot comme. C'est le mot clé. Comme. Regardez-le dans votre texte. Comme. 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 Dans la famille de Dieu, il veut qu'on traite les uns les autres comme si on était de la famille. La dame sous la rangée que vous ne connaissez pas, Seigneur, c'était un frère, une sœur en Christ, c'est peut-être ta tante dans le Seigneur, peut-être c'est une mère dans le Seigneur, peut-être c'est ta fille dans le Seigneur, peut-être c'est un frère, l'homme qui est dans la rangée, un père, le frère que tu n'as jamais eu, l'oncle que tu n'as jamais eu. Moi, j'ai grandi dans une petite assemblée et Danny y était, justement, lorsqu'il s'est converti. Et dans l'église, nous autres, c'était commun. Puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère encore à 49 ans cette année de ne pas appeler certaines personnes de l'église mon oncle puis ma tante. C'est tout des mon oncle puis des ma tante dans l'église. Alors quand je vois les Bascounianes, c'est mon oncle, ma tante. On dirait que c'est plus fort que moi. J'ai grandi, c'est viscéral. Mais ils ont rempli dans notre enfance, en n'ayant aucun mon oncle et tante en ville, ils étaient dans notre église vraiment des oncles et des tantes. Ils avaient ce rôle-là. C'était pas juste un titre, c'était pas juste quelque chose d'affectueux de même pour le fun. Appelez-les mon oncle. Non, non, ils étaient pour nous des oncles et des tantes. Et la première chose, avant même de parler de toute la question de veuve, il est en train de dire, dans l'Église, on est une famille. Et on doit se traiter dans la pureté. On doit se traiter avec un regard familial qui donne de l'égard pour les autres, parce que c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen? Une famille. Et si on l'est, je dois regarder, cultiver mon regard de l'autre. De regarder les hommes, de regarder les femmes, et non avec un regard sensualisé, comme le monde nous incite à, mais de regarder un frère, une sœur, et de traiter, et il parle en toute pureté. Et le mot qui est là, évidemment, est utilisé au chapitre précédent ou suivant, j'oublie, en sens de pureté sexuelle, et de ne pas sexualiser nos relations. Et que si Dieu, évidemment, amène à rencontrer quelqu'un, bien, qu'elle soit une sœur, un frère, en premier dans le Seigneur, avant de devenir conjoint ou conjointe. Vous comprenez? Et dans nos propres vies de couple, ma femme n'est pas juste ma femme, mon épouse, mon amoureuse, c'est aussi ma sœur dans le Seigneur. Vous pensez à ça des fois? On est appelé à se traiter avec cet égard-là. Et si on en prend conscience, si on cultive notre pensée de ces vérités. Et nos yeux, on les corrige lorsqu'on perçoit notre regard qui n'est pas selon les Écritures. Seigneur, je te demande pardon, mon regard n'est pas juste. Et je vais vous dire quelque chose d'autre de pertinent aussi. Vous savez, dans toute bonne famille, faites attention, là, il y a quelqu'un de weird. Il y a quelqu'un qui vous tape ses nerfs. Je ne vous demanderai pas de lever vos mains. Il y a peut-être des membres de votre famille dans la salle. Mais je ne connais pas une famille qui n'a pas quelqu'un dans ta famille que tu as moins d'atomes crochus avec, que ça accroche plus facilement, que tu t'ostines facilement, qu'il y a eu des blessures d'enfance, qu'il y a eu des petites choses, puis il y a toujours quelqu'un qu'on va avoir un petit peu plus de difficultés avec, n'est-ce pas? Vous savez quoi? C'est normal. C'est un monde pécheur. Il y a des gens à qui on a plus de facilité caractériellement que d'autres. Alors, vous me voyez venir? Est-ce que vous me voyez venir? Alors, est-ce que c'est normal que dans l'Église, peut-être, il y en a des fois qui te tapent un peu ses nerfs naturellement? Il y en a peut-être plusieurs. Ça veut dire que le Seigneur veut beaucoup te travailler. Est-ce que tu changes de famille à cause de ça? Non. Est-ce que tu vas changer ton nom de famille parce qu'il y en a trop dans ta famille proportionnellement qui te tapent ses nerfs? On le fait pas, n'est-ce pas? Des fois, on n'a pas le même regard sur notre famille spirituelle. On a plus d'intolérance. Que le Seigneur nous amène à confesser. Seigneur, change mon regard vers cette personne-là. Celui-ci, celle-là, avec qui c'est moins naturel, que j'aime pas ses commentaires, que j'aime pas son attitude. Ah, oh, il me dit toujours quoi faire, elle me dit toujours quoi faire. Ou que c'est plus difficile. Et dites-vous une chose, c'est normal. Ça se passe dans toutes les bonnes familles, encore moins dans un monde terrestre avec la famille spirituelle. Pourquoi ça serait pas normal non plus? On est un paquet de pécheurs mis ensemble par le nom de Jésus. Et donc, avant même de parler de toutes les veuves, il y a cet aspect-là de notre regard sur la famille. Et c'est ça qui vient influencer ce que Paul va enseigner dans les versets suivants sur l'importance de bien traiter, d'avoir un égard envers les veuves de l'Église. Et vous allez voir, tout ce qu'on va lire dedans, les principes, ne s'applique pas seulement les principes au veuvage et les femmes de cette catégorie-là de l'Église, mais il y a plein de principes chrétiens qui affectent toutes nos sphères de vie. Alors, c'est une de ces rares fois où vous attendrez un sermon sur les veuves, alors portez beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de stock quand même dans ces quelques versets qu'on va lire ensemble. Et j'aimerais commencer, avant d'aller plus loin, en faisant la lecture de ces versets et vérifier si j'ai pas oublié d'autres déclarations importantes comme. Verset 3. Honorer ou honore les veuves. Le même mot qu'on utilise pour parler dans le cinquième commandement, d'honorer les parents, que Jésus répète, que Paul répète, est appliqué aux veuves. Au même titre qu'un père, qu'une mère, parce que cette femme est une mère à quelque part généralement, honore les veuves. Celles qui le sont réellement. Ah, y a-t-il comme des fausses veuves puis des vraies veuves? Y a-t-il des fausses veuves dans la salle? Qu'est-ce qu'il veut dire des réellement? C'est quoi cette affaire-là? Il y a des réelles puis des pas réelles veuves. Ça atteint votre curiosité. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Si en effet une veuve a des enfants ou des petits-enfants, c'est à eux premièrement. Et littéralement ici, c'est le mot d'abord. Donc, en question de priorité. D'abord, à eux d'apprendre et là, d'être instruits à pratiquer la piété. À pratiquer donc de faire des gestes qui plaisent à Dieu avec révérence vers leur propre famille et de payer de retour leurs parents. Payer de retour leurs parents, c'est intéressant, j'aurais y revenir. Voilà certes qui est agréable aux yeux de Dieu. Peut-être vous pouvez souligner ici le mot agréable, on le retrouve juste ici et dans le chapitre 2, verset 3, lorsqu'il parle de nos prières et d'aller devant le Seigneur et de vivre paisiblement et que ça, c'est agréable à Dieu. Chapitre 2, verset 3, on le retrouve le même terme ici. La raison, c'est parce que quand tu prends soin de ton monde, de ta famille, Dieu, ça lui fait un petit sourire. Oh, c'est un papa. Notre Père est un papa. Et quand ces enfants, quand tu regardes tes enfants bien se traiter, là, l'autre jour, j'étais au Cap Atmos la fin de semaine passée, puis j'ai vu une grande sœur s'occuper de sa sœur handicapée, qui a peut-être 16 ou 17 ans, puis là, elle était assise en arrière, puis elle est en train de faire la couette. Ah, que c'était beau. J'aurais voulu filmer. c'était beau de voir la grande sœur s'occuper de sa sœur qui fait sa tresse tout croche, puis sa couette était comme... Puis elle sait qu'elle fait pas bien, fait qu'elle prend le temps de le faire comme foi. Elichel, je la voyais tirer comme ça, là, la petite sœur attachait les cheveux. Là. Je me revoyais faire ça avec les filles là, quand elle était jeune. Puis là, elle l'attachait tout gentiment, un élastique, un deuxième, puis un troisième pour faire beau. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait comme père? Je faisais, oh! C'était tellement beau! Hein? Parce que quand tu vois tes enfants se traiter avec égard, qu'est-ce que ça fait à un père, une mère? Oh! C'est ça, Régent, il a compris. Oh! On est fiers, c'est comme ça que ça devrait être. Et il y a quelque chose de beau, de sain, d'agréable, qui rend un parent fier de voir ça. Mais votre papa, il est pareil. Mon papa céleste, il est pareil. Quand on se traite comme ça, puis qu'on est responsable les uns envers les autres, oh! Quelle joie! C'est agréable à Dieu. Et il continue. Quant à celle qui est réellement veuve, qui a encore des fausses veuves, il y a des réelles, des pas réelles, qui est demeurée tout à fait seule. Ah, OK, fait qu'une réelle veuve va rester seule. On voit ça ici. Ça fait du sens jusqu'à présent, là. Qui demeure tout à fait seule, elle a mis son espérance en Dieu. OK. Et on dit, et persévère nuit et jour dans la supplication et les prières. Fait qu'il y a des veuves qui se démarquent dans leur spiritualité, dans l'Église, et qui semblent, dans leur solitude, se consacrer davantage à Dieu dans le service et dans ce ministère de la prière les uns pour les autres, et d'une façon continue. Ça prend la place dans sa vie extrêmement importante. C'est cette femme veuve dans l'Église qui regarde le bottin puis qui prie pour vous à toutes les 2-3 semaines, a fait le tour du bottin, qui regarde dans le feuillet voir s'il y a quelque chose à prier pour. C'est cette veuve qui vous pose des questions parce qu'elle a prié pour vous dernièrement. Elle dit, comment ça va pour telle affaire? Elle se démarque, cette veuve, par une grande spiritualité, celle qui est réellement veuve ici, qui va faire partie d'un rôle dans l'Église. Et continue au verset 6. Par contre, celle qui ne pense qu'au plaisir est morte. Ici, le plaisir ici est traduit pas entièrement l'idée, c'est la légèreté un peu sexuelle qui est impliquée dans le mot ici, dans l'origine du mot. Elle est morte, quoique vivante. Donc, c'est-à-dire, si elle se dit chrétienne, mais qu'elle se laisse aller tout simplement dans les plaisirs sexuels, et là, on comprend ici pas d'une façon honorable dans le mariage, mais en dehors, de flirter d'un bord puis de l'autre, d'avoir des aventures ici et là, etc. À l'intérieur, elle est réellement morte spirituellement. C'est pas normal, c'est pas santé. Face à cette femme-là qui se consacre à Dieu et qui veut donner toute cette liberté qu'elle a de sa solitude à Dieu. Voilà aussi ce que tu dois prescrire afin qu'elle soit irréprochable, ces femmes-là, dans l'Église, ces veuves. Et là, on va dire, c'est exigeant envers les femmes veuves de demander qu'elles soient irréprochables, qu'on ne peut pas leur dire aucun reproche. En fait, c'est ce qu'on demande à qui d'autre, dans le chapitre précédent? Ben, aux diacres et aux diaconesses. On demande la même chose aussi aux dirigeants, aux anciens, n'est-ce pas? Et là, on demande à ces femmes-là qui ont un rôle de service exceptionnel dans l'Église aussi, qui sont réellement veuves. Et continue verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout ceux qui vivent dans sa maison. Il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Donc, si un croyant s'occupe pas de son monde chez eux, il est encore pire que quelqu'un qui est un non-croyant. Parce qu'un non-croyant sait qu'on ne devrait pas faire ça. Tu prends soin de ton monde. Et là, il met ici, en porte-à-faux, cette question-là de professer d'être croyant, mais finalement de devenir pire qu'un croyant si tu te comportes pas dans une mœurs sociale de prendre soin de ta famille qui est bon pour le non-croyant que le croyant. Et c'est une honte. Et tu serais pire parce que tu professes quelque chose, mais tu agis pire que. Et là, Paul ne mâche pas ses mots. Il continue, il dit, une femme ne sera pas inscrite au groupe des veuves. OK, fait que là, il y a une sorte de liste dans l'Église pour savoir lesquelles veuves que l'Église va prendre soin. Et là, ici, c'est vraiment le mot de faire une liste, comme on ferait une liste, en fait, dans l'armée. un catalogue, littéralement. Le mot qui est là, c'est de là que vient en français le mot catalogue. De faire une liste, un catalogue, comme on ferait aussi une liste d'hommes dans l'armée avec les qualifications, puis est-ce qu'ils ont suivi leur temps. Ben, voici une liste d'hommes qualifiés. Ben, dans l'Église, voici une liste de femmes qualifiées, reconnues comme étant des femmes réellement veuves qui peuvent participer au rôle de l'Église et donc recevoir un soutien financier de l'Église. Et ceux qui rentrent pas dans cette catégorie-là, ben, ils peuvent pas être soutenus. Si tu as de la famille qui se prend soin de toi, ben, tu devrais pas être dans le rôle. Si t'es pas dans, en tout cas, on va lire le reste des catégories là, mais il continue ici en disant si elles ont moins de 60 ans, elles devraient pas être là. Et ils ont et ils n'ont eu qu'un mari, donc en étant ici fidèle, parce qu'on parle d'un seul mari, d'être le mari d'une seule femme pour les diacres et diaconesses, en parlant de leur fidélité. C'est pas l'idée que t'as eu un seul mari. Il est mort, puis là, ah, t'as eu un deuxième mari, tu peux pas qualifier. Mais non, la Bible encourage, puis dit, tu peux te remarier. Alors, c'est pas ça ici qui est en train d'être sous-entendu, c'est le fait d'être fidèle dans ton mariage. Il faut qu'elle soit connue pour ses belles œuvres, qu'elle ait élevé des enfants. Ici, c'est pas une discrimination contre celle qui serait infertile. Okay, on comprend bien ici, de manière générale, il parle pas des exceptions. Exercer l'hospitalité, ici littéralement, c'est de recevoir le xéno, l'étranger. Hein, vous vous rappelez, chez les anciens, on disait il fallait être aimer le xéno, aimer l'étranger. Là, ici, c'est de recevoir l'étranger. Assez intéressant. Donc, elle exerce l'hospitalité, cette femme. Elle lave les pieds des saints. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. C'est quoi cette affaire-là de laver les pieds des saints? Mesdames, le Seigneur Jésus vous demanderait jamais de faire quelque chose que lui-même ne ferait pas lui-même, n'est-ce pas? Et qui est le premier dans les évangiles à avoir lavé les pieds? Jésus. Pourquoi on lavait les pieds? Les gens faisaient un long voyage. Et les gens avaient des sandales, il n'y avait pas des belles bottes, des bas avec un beau petit push-push, sans bon, pour que quand tu sors, fait que quand tu faisais une longue marche, tu avais les pieds dégueulasses, ça sentait, je vous dis pas le quoi, et rendu dans la maison, ben tu voulais qu'ils se lavent les pieds avant de se mettre à la table parce que le souper allait être long. Alors, la femme accueillante, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle avait un bassin à l'entrée, puis elle lavait les pieds de ses invités. Pas parce qu'elle est moindre qu'eux, parce que même le Seigneur Jésus a fait cette même chose-là pour montrer qu'on doit servir les uns les autres. Et donc, ce que ça nous dit de cette femme, c'est qu'elle a de l'humilité, elle est recevante, elle est prête à faire les tâches qui semblent basses pour que ses invités soient accueillis, soignés, bien traités avec égard. Et donc, ça fait partie des choses qu'il notait ici, parce qu'elle reçoit, évidemment, des gens qu'elle accueille à la maison, assister les affligés, dont ceux qui passent des épreuves, les femmes en deuil, ceux qui sont dans la pauvreté, qui passent un moment de maladie, qu'elle soit appliquée à toutes ses bonnes œuvres. Un auteur a résumé, en fait, l'attitude qui est décrite ici de la façon suivante. La charité a divers caractères et diverses fonctions selon les divers sujets. Zélée pour le règne de Dieu et cette femme à l'égard des enfants par une bonne éducation, libérale envers les étrangers, humble envers les fidèles, secourable envers ceux qui souffrent en tout lieu, en toutes circonstances. Et ce qu'on décrit ici de cette femme, c'est son caractère chrétien. C'est son caractère chrétien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous amener dans quelques observations. Donc, premièrement, on regardait les veuves et toute personne comme des membres de la famille. Deuxièmement, ces veuves âgées. On nous donne les consignes qu'on vient de lire présentement. J'aimerais vous souligner ici l'importance de la veuve dans l'Ancien Testament. Juste vous rappeler ici que Paul s'inscrit dans une continuité de ce que tout l'Ancien Testament enseigne. L'Ancien Testament parle des veuves 60 fois dans l'Ancien Testament. Des fois, il y a des veuves qui sont pas appelées veuves. On l'a regardé, Naomi, elle n'est pas une seule fois appelée veuve. Pourtant, c'est une veuve. Donc, il y a des veuves qui sont pas nommées dans l'Ancien Testament, des histoires de veuves. Mais le mot veuve est utilisé 60 fois dans l'Ancien Testament, dont le tiers de ces fois-là dans le Pentateuque, dans la loi. Autant dans les lois pour protéger que dans le Deutéronome pour rappeler en rentrant dans le pays, il faut prendre soin des veuves, les amis. Et un des versets clés à ce sujet... Et là, peut-être je ne le retrouverai pas dans mes notes. Oui, je l'ai juste ici. Et celui-ci qui résume pas mal les grandes lignes. Deutéronome chapitre 10, verset 18. Vous pouvez l'écrire à côté. C'est un exemple parmi plusieurs autres. mais qui vous donne ici l'exemple de la trilogie des gens vulnérables qu'il fallait prendre soin dans la loi, qui fait droit aux orphelins et à la veuve et qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. La veuve, l'orphelin, l'étranger est répété continuellement dans l'Ancien Testament de gens que la loi dit « vous avez d'affaires ». Vous avez d'affaires comme peuple, après vous avoir reçu la grâce de Dieu, d'avoir de l'égard pour ces gens-là, parce que vous avez été tout cela. Vous avez été un peuple orphelin à une certaine époque, à l'apparence. Vous avez été des étrangers. Vous avez été vulnérables, et Dieu a eu cette grâce envers vous. Usez de cette même grâce et n'abusez jamais de la personne qui est vulnérable. Et ça commence par Tamar dans l'Ancien Testament, et ça continue jusqu'à la veuve de Sarepta, que même Jésus va mentionner dans le Nouveau Testament, sans oublier Ruth et Naomi, ces veuves du livre de Ruth qu'on nomme jamais comme veuves et pourtant le sont. De plus, Dieu se préoccupe du droit de des plus vulnérables et la loi a prévu justement de prendre soin de cette trilogie de gens vulnérables qui est répétée à travers tout l'Ancien Testament d'une manière assez égale. Et ce qu'on retrouve, c'est que lorsque le peuple avait fait des bêtises, se faisait reprendre, ce que les prophètes disaient comme reproche, ils revenaient régulièrement à ce problème-là. Zacharie, Amos, Ésaïe, nommez-les les prophètes. Les prédicateurs d'Israël, qui étaient les prophètes, quand ils devaient reprendre le peuple, généralement, il y avait une exhortation, il dit « Gang, vous traitez pas bien votre famille, vous vous occupez pas des plus vulnérables. » Puis ça, Dieu, ça y fait mal au cœur. C'est sur son cœur qu'on prenne soin des vulnérables. Et vous, vous faites pas comme le cœur, la nature compatissante de votre Père Céleste. Et quand il voit ça, ça le rend triste. Il est triste, il est blessé de cela parce que c'est sur son cœur. Arrêtez de faire ça. Vous êtes en train de regarder à l'argent et vous oubliez votre famille. Et combien de fois chez les prophètes on retrouve ça de manière assez régulière comme réprimande. Occupez-vous de votre monde, Israël. C'est sur le cœur de Dieu. Et donc, l'Ancien Testament est teinté de tout cela. Et on retrouve la même chose ici dans le Nouveau Testament. Sur 27 fois dans le Nouveau Testament qu'on parle des veuves, le tiers des références sont ici. Et l'autre partie, presque unanime, et pas seulement, est dans les évangiles, c'est Jésus. C'est Jésus qui défend les veuves et qui reprend les religieux, dit « Vous rentrez dans les veuves et vous profitez d'eux autres. Vous faites des longues prières, vous vous pensez religieux. » Puis ça écœure Dieu parce que vous n'êtes pas en train d'en prendre soin, vous abusez des veuves. Vous prenez un free lunch chez eux, plutôt qu'en prendre soin. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Tout de suite après ça, dans deux évangiles, il raconte l'histoire de une veuve qui vient déposer un sou. Puis il dit, vous avez vu cette veuve-là avec un sou? Mais ce qu'elle a donné, c'est bien plus que tout le monde qui est venu un matin, que vous avez regardé donner ce matin à la synagogue. Elle, elle a vraiment donné, elle a donné de son nécessaire. Elle savait pas si elle allait avoir un lunch à midi, mais elle a donné à Dieu par la foi. Ça, c'est une femme de foi. C'est une veuve qui a été utilisée comme analogie pour humilier l'esprit religieux des pharisiens. Intéressant, hein? L'ironie de Jésus, vous les maltraitez, mais elle te fait la barbe sur c'est quoi la foi en Dieu. En bon québécois. C'est une femme. Et quand Jésus va rencontrer une femme un jour qui était non seulement veuve, mais il rentre dans le village puis il voit que son fils unique, il meurt. La veuve de Nain. Qu'est-ce que Jésus fait? Il est pris dans ses tripes. On dit qu'il fut pris aux entrailles de compassion pour elle. On dirait que c'est un geste spontané. Sans qu'elle réfléchisse, il dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. C'est deux grands, un fils unique et être veuve. Et là, Jésus ressuscite l'enfant. Il dit, cette femme-là ne peut pas avoir une autre grande peine comme ça. Tellement que Jésus avait le cœur. Jésus est l'incarnation du cœur du Père Céleste parmi nous. Et quand on voit Jésus avoir cette compassion-là, on comprend et on voit visuellement sur terre la compassion du Père Céleste mise en œuvre dans un homme qui a marché sur cette terre qui est son fils. Et là, vous voyez le cœur de Dieu quand Jésus réagit. C'est le cœur de Dieu, le Père, qui se manifeste dans l'action du fils. Tu ne peux pas laisser cette femme-là de même. Et il ressuscite le fils. Et vous imaginez la femme, ce jour-là, qui peut-être voulait mourir, et que là, Jésus lui donne l'amour de Dieu le Père en lui redonnant son fils. Pas par mérite, juste parce que Dieu aime. Dieu nous aime. Et là, c'est un père qui gracieusement prenait soin de sa fille parce qu'il est sensible à ce que les veuves vivent. Les stress qu'engendre leur situation de solitude, la solitude avec laquelle ils doivent se débattre et qui ne veulent pas déranger. Dieu y est sensible. Il est en train de nous dire par Paul, je veux que toute l'Église y soit sensible. Je veux que de tout le peuple d'Israël y soit sensible. Parce que ça reflète être sensible à eux, le caractère de Dieu dans nos vies. Amen. C'est le caractère de Dieu dans nos vies lorsqu'on fait cela. Et notre vie étant changée par Jésus-Christ, il est possible pour nous de grandir dans ce caractère divin. Je m'en tiens à cela et je continue dans les notes. Quatre principes, donc, je résume ce qu'on vient de lire et je vous donne quatre principes à en retenir. OK? Premièrement, le principe d'honneur et de respect, et même de dette. Il y a une expression utilisée au verset 4 hein, qui parle ici de dette. C'est comme si on a une dette envers nos parents. Et ici, évidemment, c'est pas qu'on peut la repayer. C'est pas ça l'idée, puis qu'on doit la repayer. C'est l'idée qu'on a une dette de reconnaissance. C'est pas qu'on repaye le 175 000 que ça a pris sur 20 ans nous élever. Ça pourrait être intéressant dans mon cas, j'ai quand même plusieurs enfants, là. Ah non, je suis désolé, c'est ma chair. Là, c'est le Joël Charnel qui vient de parler, évidemment. Là, hein? À 11 enfants, attends un petit peu. Non, laissez faire ça. Hein? C'est pas l'idée qu'on repaye. Mais il dit, il y a une dette de reconnaissance. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a une femme qui a souffert en l'accouchant de toi. Qui t'a aimé, qui t'a donné le sein, qui t'a donné tous les premiers soins pour pas que tu aies des plaies sur tes foufounes quand que tu avais fait tes besoins sur toi. Puis on est-tu content d'une maman qui a mis de la petite poudre, qui nous a nettoyé, séché, puis là, a mis la poudre toute gentiment, puis là, a mis dans un beau linge sec, agréable, hein? D'avoir ses bras réconfortants lorsque tu as une peine. D'avoir un père qui joue avec toi, qui t'a amené à des sorties, qui t'a élevé, qui t'a donné les possibilités de faire des sports, etc., de même peut-être aider pour tes études, etc. Mais il n'était pas parfait. Puis elle aussi n'était pas parfaite. Et malgré cela, il n'est pas en train de dire ceux qui sont dignes puis qui ont vraiment bien fait leur job, aidez-les eux autres puis honorez-les. L'honneur n'est pas conditionnel. Mais on comprend qu'il y en a qui sont moins honorables que d'autres. OK? Et dernièrement, j'ai été édifié par une femme de l'Église qui a pris soin de sa mère jusqu'à sa mort, malgré que sa mère n'avait pas été gentille avec elle toute sa vie. Puis elle le faisait vraiment par amour pour Dieu. Et je me disais, wow, ça c'est la vie de Christ en nous, quand tu fais ça. Je vais l'honorer même si elle n'est pas honorable. Je vais demander à Dieu de m'aider quand elle me dit des choses pas gentilles, pas reconnaissantes, pour m'aider à encaisser. Je vais aussi mettre mes limites, hein, aussi. Non, ça je tolère pas ça, je suis désolé. C'est correct, ça. Il y a aussi des choses qu'on doit dire et faire. Mais quel honneur à Dieu. Elle s'en est occupée jusqu'à son dernier souffle. Elle a pris soin de tous ses soins jusqu'à la fin, puis après ça, le salon funéraire, et tout cela malgré qu'elle était désagréable. Et ça, c'est d'autant plus la grâce de Dieu de faire un tel geste qu'avec la maman avec qui, tu sais, c'était ta meilleure amie toute ta vie, qu'elle a toujours été une bonne conseillère, qu'on faisait des sorties ensemble. C'est plus facile à ce moment-là, quand la maman et le papa a été, tu sais, honorable. C'est d'honorer lorsque l'autre n'est pas honorable, mais que j'honore juste par principe d'obéir à la loi de Dieu. Puis de pas honorer juste parce qu'elle est honorable, d'honorer pour honorer Dieu, tout simplement. Et ça, ça demande l'Esprit de Dieu en nous, pour aimer. Il y en a que c'est plus facile que d'autres le faire. D'autres, c'est un beaucoup plus grand défi de foi de faire cela. Que le Seigneur nous accorde d'avoir cette audace d'honorer, d'exprimer notre reconnaissance envers nos parents. Et Jacques dit une phrase assez intéressante. Je vous invite à l'écrire dans la marge de votre Bible s'il n'est pas déjà de là. Mais Jacques 1. Verset 28, c'est une de ces références qui parle des veuves. Il dit ceci, « La religion pure et sans tache Ici, il ne parle pas de la religion comme on parle de la religion catholique, de faire des choses pour plaire à Dieu, pour être sauvé, mais de faire des choses parce que Dieu nous a sauvés et que là, on exprime des gestes qui honorent Dieu, qui montrent qu'on craint Dieu. Fait que la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves et dans leur détresse et aussi de ne pas se laisser souiller par le monde. C'est intéressant, hein? Ces deux éléments-là, il n'y a pas une liste de 50 affaires qui sont mentionnées. Prendre soin des vulnérables puis de se tenir loin de l'impureté du monde, de se garder séparé. Il ne parle pas d'être dans un monastère ici. Mais de se garder séparé, de vivre différemment. Voilà les deux choses. C'est intéressant. Deux choses seulement sont nommées et la veuve et l'orphelin vont être dedans. Ce n'est pas à dire combien c'est important et clé dans la vision de Dieu et pour l'Église de Christ. Principe aussi de consécration à Dieu pour les veuves. Le Seigneur appelle que la veuve qui perd son mari, ben soit qu'elle se remarie, mais dans les deux cas, qu'elle se remarie ou pas, qu'elle se consacre à Dieu. Qu'elle se donne dans sa liberté, dans sa solitude, à Dieu pour combler ses besoins ou combler ses besoins en attendant que, si elle est plus jeune, ce qu'une plus jeune femme va être portée à faire, mais qui n'est pas une garantie. On ne choisit pas toutes ces choses-là. On peut aspirer et pourtant, tu ne veux pas mal te marier pour cette aspiration-là parce que ça va être pire. Vaut mieux attendre, et comme Paul le dit, de le faire dans le Seigneur. Hein? Chapitre 7, verset 39, 1 Corinthiens, c'est se remarier, mais qu'elle fasse dans le Seigneur, pas dans le monde, pas avec n'importe qui, mais avec quelqu'un avec qui ils vont porter le même joug, qui vont servir ensemble, qui ont le même Seigneur, pas un Dieu étranger, et qui aurait deux valeurs différentes dans ce foyer. Ce que le Seigneur, évidemment, nous dit de ne pas faire et qui serait déraisonnable. Donc, principe de consécration, soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Chrétien qui est fidèle dans son témoignage et qui honore Dieu. Troisièmement, il y a le principe de cohérence avec ma foi. Tu ne peux pas dire quelque chose et vivre d'une manière pire que les incroyants le feraient. Quand on voit la manière dont certains incroyants qui ne croient pas en Dieu traitent avec respect égard leurs veuves dans leur famille. Oh, que c'est beau! Des dévouements incroyables. Et là, se dire croyant et faire moindre avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, il dit, il y a un principe de cohérence dans l'Église. Qu'on professe quelque chose, mais par la grâce de Dieu, culpabilisons pas, demandons à Dieu l'aide pour être capable de le vivre d'une façon qui honore Dieu. Donc, un principe de cohérence avec la foi et un principe de vraie veuve. Donc, on va pas soutenir n'importe qui dans l'Église. Si elle a de la famille, la madame, on va pas la soutenir. On dit, hey, la famille, prenez vos responsabilités. Si la dame a moins de 60 ans, plus propice à se marier, on dit, ben non, prends pas un engagement à rester veuve, puis à un moment donné, tu vas être tenté, puis tu vas briser ton engagement. Ah non, prends ton temps, là, puis écoute, t'as encore des possibilités, on va mettre un âge, etc. Puis on veut pas embarquer trop de gens là-dedans qui, finalement, vont manquer leur parole, on va déresponsabiliser de la famille, que finalement, ils ont pas un bon témoignage. Finalement, ils ont de la oisivité, puis dans leur temps libre, ils vont visiter, mais ils font du cancan. Puis ils font du magasinage d'hommes. Puis non. Vous comprenez? On comprend ici que la liste était assez réduite dans l'Église. Il n'y avait pas une tonne de dames qui rentraient là-dedans. Mais des dames comme ça dans une Église, hop là, ça fait toute une différence. Mais cinq femmes comme ça dans une Église, là, et les ravages spirituels que ça peut faire pour prendre soin, pour aider l'équipe pastorale et diaconale à servir, etc. Et rappelez-vous, l'équipe diaconale initiale dans Actes chapitre 6, c'était pourquoi? On avait de la misère à bien prendre soin d'une façon honorable des veuves, n'est-ce pas? Et donc, c'est le besoin des veuves qui était tellement important que créer le ministère diaconal de service de ceux qui brassent la poussière dans leur mouvement au service des gens. Et donc, les veuves et leur place est tellement clé. Je lisais cette histoire que le pasteur soulignait. J'ai entendu l'histoire d'une missionnaire qui était revenue du champ missionnaire pour assister ses parents âgés et malades. Elle a abandonné son endroit où elle était en service dans un autre pays pour prendre soin d'eux. Elle fut critiquée par quelques-uns de ses collègues missionnaires. « Nous devons aimer Dieu plus que nos propres pères et notre propre mère », leur disait-il. Mais elle demeura fidèle jusqu'au bout. Elle retourna dans sa mission où, durant de longues années encore, elle eut un ministère fructueux, sachant qu'elle obéissait à Dieu, mais sans le remords d'avoir manqué à son devoir de fille de prendre soin de ses parents et de les honorer et de ne pas prendre la mission comme excuse d'honorer. Vous vous rappelez, Jésus, à un moment donné, il reprend dans Marc, je pense que c'est 7, il reprend les religieux et dit, « Vous utilisez telle loi pour contrecarrer la responsabilité de donner à votre mère, aux veuves. » Puis là, ce que vous faites, vous cancellez la loi en ajoutant ça. Et ça, c'est hypocrite, c'est religieux, et ça me fait vomir. C'est ce que Jésus insinuait. Vous cancellez la parole de Dieu en prenant d'autres choses pour déresponsabiliser envers vos parents. Oh, ce que j'aurais pu faire si je le donne au Seigneur plutôt que le donner à mes parents? C'est quoi cette affaire-là? Négliger sur le dos de donner à l'Église que je prendrai pas soin de toi, que oh, je peux pas, ça c'est saint, je l'ai mis de côté pour Dieu, je pourrais pas t'aider, mon père, ma mère. C'est quoi cette affaire-là? C'est inacceptable, Jésus a dit. Et il les reprend sur le dos de la religiosité pour diminuer ma responsabilité. Et vous savez, peut-être nous, on ne fera pas la même chose, mais la ligne peut être mince en donner ma responsabilité à l'État et de rendre l'État responsable de mon parent, de ma vieille tante seule, etc. Notre tentation est là. On a un défi à ce niveau-là parce qu'on donne beaucoup à l'État, puis on chiale l'État. Puis après ça, on veut pas que l'État nous prenne trop d'argent dans nos poches, mais l'État, on veut qu'il fasse ça, puis qu'il fasse ça, puis qu'il fasse ça, puis ça coûte rien à l'hôpital, puis qu'il s'occupe d'auveur, puis qu'il y a une bonne pension, puis ça. Ben ouais, mais ça coûte quelque chose, ça, les amis. Mais on chiale. Est-ce qu'on est vraiment juste? Parfois, même comme chrétien, la ligne est mince qu'on se déresponsabilise et qu'on dompe au gouvernement, à l'État, de faire quelque chose qui m'appartient, premièrement comme fils, comme fille. Envers le parent, envers la veuve. Ou la femme qui est comme une veuve, qui était seule toute sa vie, puis qui a servi le Seigneur, puis qui est fidèle, puis qu'on doit honorer, puis qui est dans une vulnérabilité. Et donc, il complète aussi, donc au verset 10, qu'elle doit avoir au moins 60 ans, une réputation d'avoir un bon témoignage. Et on remarque ici la même parallèle hein, avec la liste pastorale, la liste diaconale. Il y a un souci qu'il y ait un bon témoignage. Les gens du dehors qui disent pas que c'est un ci puis c'est un ça. Là. C'est important comment les gens du dehors de l'Église vont voir cet homme-là. Sinon, ça va nuire à son ministère dans l'Église. Et dit, ben la femme aussi, elle doit avoir un bon témoignage par la manière dont elle se comporte, qu'elle vit et dans son service avec les gens dans l'Église. Vous savez, il y a beaucoup de femmes que je pourrais parler comme exemple à ce niveau-là. Et le Seigneur m'a permis de vivre une situation cette semaine vraiment exceptionnelle. Et je n'avais pas vu la main de Dieu jusqu'à après. Mercredi, certains peut-être ont connu ma tante Rose. Ma tante Rose, ben c'est ma tante. Mais il y a des centaines de personnes qui l'appellent ma tante Rose au Québec. Sans enfant, veuve depuis 47 ans, elle est décédée jeudi. Et mon père nous a contactés dans l'après-midi, il me dit, toute la famille dit, priez, ma tante Rose s'en va, on prie que le Seigneur la libère, elle est plus présente, elle souffrait d'Alzheimer depuis des années, et on la visitait plus parce que ça y créait plus d'angoisse quand on venait, fait qu'il y avait un groupe réduit de 4-5 personnes qui en prenaient soin, deux de l'église, deux de la famille qui étaient là sur une base régulière pour en prendre soin. Et donc, j'avais pas visité ma tante que je visitais lorsque j'allais voir mes grands-parents, et là, mon père m'informe de tout ça, puis il m'est venu spontanément à cœur de dire, ben, je suis libre à soir, je vais partir tout ça après le souper, puis je vais aller les rejoindre. Alors, je suis allé rejoindre mes parents, et dans l'heure que j'étais là, à un moment donné, ses yeux se sont spontanément ouverts. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ça. Elle n'était plus là. Elle n'était plus là depuis 24 heures, mais elle respirait encore. C'était difficile, on entendait le roulement de l'eau dans ses poumons. Et elle était tranquillement en train de juste... ses derniers souffles. Et c'était comme ça pendant une heure de temps. Et à un moment donné, quand ses yeux se sont ouverts, mon père m'a demandé de lui refermer les yeux parce qu'elle n'était plus là, puis ils n'ont pas réouvert. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça a pris beaucoup sa petite sœur, ma mère. Alors, ma mère s'est approchée. Moi, j'étais à son front. Ma belle-sœur est à côté de moi, qui la visite depuis des années maintenant. Et ils ont commencé à chanter des chants de ma tante Rose. Oui, Jésus m'aime. Yes, Jesus loves me. Ils l'ont chanté en français, mais en anglais. Et moi, j'étais pas capable. Je vous avoue, j'ai fondu en larmes. Mon père était au bout du lit, puis je le regardais pas parce qu'il me faisait plus brailler. Fait que je flattais le front de ma tante, puis je me concentrais à apprécier le moment spécial. Et là, pendant qu'ils chantaient, et ça a pris tout leur petit change pour chanter parce que ma mère pleurait. Si vous savez comment c'est difficile chanter quand on pleure. Et ils chantaient les deux ensemble, et tranquillement, son souffle a diminué. Le raclement qu'il y avait est parti. Se sont espacés. Et par le temps qu'ils ont terminé de chanter, après 6-7 minutes, elle avait laissé passer son dernier souffle. Et je vous avoue que c'était ma première fois de vivre un moment aussi intime. J'avais accompagné plusieurs fois des morts à l'hôpital, des gens qui étaient sur la fin de vie, de prier avec eux, des fois présents, des fois pas présents, mais j'avais leur dernier souffle. Et là, d'être là pour ma tante, avec mes parents, était un moment vraiment exceptionnel. Ma cousine est venue nous rejoindre, de vivre ça. Et là, sur la route de retour, je ressassais ça, puis on a beaucoup pleuré là-bas. Et là, je me suis dit, hey, Seigneur, c'est pas anodin que c'est 7 semaines. Pour la première fois de ma vie, je prêche sur les veuves dimanche matin, et 4 jours, 3 jours avant ma prédication, le Seigneur me permet, dans sa grâce, d'accompagner une veuve à son dernier souffle, ma tante Rose, 47 ans, comme veuve. Et après la mort de mon oncle, elle a toujours servi le Seigneur. Ceux qui ont été au camp Patmos des années 80-90, ils se faisaient nourrir par ma tante Jeanne et ma tante Rose. Fait que quand j'étais enfant, je ne pouvais pas finir mon assiette, mais ma tante me checkait. Ça avait des plus et des moins, tout ça. Ma tante Rose nous gardait à Chibougamau lorsque mes parents allaient dans un congrès à Toronto pendant une semaine. Et là, le Seigneur m'a amené à voir, Joël, je te permets de vivre ce moment-là avec une veuve qui est ta tante, que tu ne voyais pas comme une veuve de la même façon, alors que je prêche là-dessus ce matin. Je me disais, quelle belle analogie et clin d'œil de Dieu dans ma vie, pour moi, là, de me visualiser ce que c'est. J'aurais pu parler de Mme Feller, veuve à 35 ans, qui est venue évangéliser le Québec, qui a eu un impact incroyable. Je pourrais parler de cette veuve ici, fidèle au Seigneur, qu'ils n'aimeraient peut-être pas que je souligne leur nom. Et vous avez certainement des veuves dans votre tête que vous connaissez, qui reflètent cette valeur-là. Et le Seigneur m'a rappelé cette semaine, ma tante Rose a été 47 ans veuve après mon oncle Georges. Et elle était fidèle. Elle a pris son temps pour être oisive. Elle évangélisait jusqu'à son dernier souffle. Elle avait des chants du Seigneur dans sa chambre. Elle évangélisait ses voisins. Et c'est elle qui a conduit au Seigneur ma grand-mère. Et de elle est venue toute la famille, sont devenus chrétiens. Ça commençait avec ma tante Rose, qui en 54 a invité sa sœur, qui n'était pas intéressée pantoute, qui faisait les bars. Puis il disait, Nita, tu as besoin de venir écouter ce film-là de Billy Graham à Montréal. Puis elle a traîné sa sœur. Elle a insisté. Puis finalement, dans l'auto, elle ne savait pas, mais le beau jeune homme qu'elle ne connaissait pas est devenu son mari. Qui, Seigneur, a utilisé? Ma tante Rose. Et là, je vous donne l'exemple de ma tante Rose, mais vous avez ces femmes dans vos vies que vous connaissez. Que le Seigneur veut qu'on apprécie, qu'on bénisse, qu'on prie pour et qu'on valorise. Et donc, je vous partage ça d'une façon peut-être plus intime, mais ça illustre peut-être certains noms que vous connaissez dans votre vie et que le Seigneur nous invite à faire cela. Et ce qu'il démarque ici, cette femme, tout comme le pasteur, tout comme le diacre, tout comme la diaconesse, c'est pas ses capacités. Ce n'est pas son talent, ce n'est pas son statut social, ce n'est pas son veuvage. C'est son caractère chrétien qui est avec lui ici. C'est strictement lié à son caractère chrétien, ce qui la démarque et ce qui fait un impact dans sa vie. Je termine avec ces quelques versets sur les jeunes femmes. Et je ne donnerai pas autant de temps, mais je vais les commenter brièvement, cette section. Regardez avec moi. « Quant aux jeunes femmes, tu les écarteras. » Ben là, c'est quoi cette discrimination, là? Les pauvres jeunes femmes qui sont veuves, là? Tu les écarteras d'être sur cette liste-là et qu'ils soient imposés d'avoir ces critères-là, peut-être qu'ils vont de la misère à remplir, puis que là, ils s'engagent trop rapidement. Encourage-les, ils ne sont pas obligés, évidemment, mais qu'ils peuvent se remarier. Car lorsque leur désir les détourne, puis là, le désir pourrait être bon, mais là, ils se détourneraient d'un engagement qu'ils ont pris. Les détournent du Christ, elles veulent se remarier. Ici, c'est pas que le remariage est mal, c'est que s'ils ont pris un engagement, puis ils ont des désirs, là, ils brisent un engagement, puis c'est pas une bonne chose parce qu'ils ont pris un engagement devant Christ, devant le Seigneur, pour lui. Encourage ainsi le jugement pour avoir rompu, excusez-moi, encourageant ainsi le jugement pour avoir rompu le premier engagement. Et c'est la façon dont la plupart des traductions l'ont traduit, de comprendre ici l'idée de briser sa première engagement. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas les inciter à rentrer dans ce rôle-là trop rapidement, à un âge où ils sont plus propices à vouloir naturellement et sainement se remarier. Et ce qui était pour une femme veuve d'être plus vulnérable, d'être avec un époux, la plaçait dans une situation plus stable au niveau sécuritaire, au niveau économique, etc. De plus, comme elles sont désœuvrées, qui manquent de travail, c'est ce que ça veut dire ici, qu'il manque d'œuvre à faire, parce que là, ils seraient sur le rôle, mais il manquerait d'occupation. Elles apprennent à courir les maisons, et non seulement elles sont désœuvrées, manquent de travail, mais encore bavardent indiscrètement, et ils parlent à tort et à travers. Et là, ça les place dans une situation où, au lieu d'aller prendre soin, comme la veuve qui est mentionnée précédemment, à aider les gens dans les situations difficiles, bien, elle va se promener, mais finalement, elle fait du placotage, elle radote sur les autres, elle manque d'occupation, et ce serait un danger pour elle. Et ça ici, c'est la préoccupation. Il n'est pas en train de dire que les femmes ont tendance à faire ça. C'est pas ça le message de ce que Paul dit ici. Si on les place dans une situation de prendre cet engagement-là trop vite, quand ils aspirent à une vie conjugale qui continue avec un autre homme après avoir perdu leur époux par la mort, on ne leur rendrait pas service. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et ça les placerait dans une situation dangereuse. Je veux donc que les jeunes femmes se remarient. Ils ne sont pas obligés. Je le recommande. C'est ce qu'il dit ici. Paul ne s'impose pas ici aux femmes. Qu'elles aient des enfants, ce qui serait naturel, évidemment, et dirigent leur maison et ne donnent aucune prise aux médisances de l'adversaire. Et ici, donner aucune prise, c'est l'idée, on utilisait ça comme le terme militaire, que tu as besoin d'une base d'opération pour pouvoir faire une attaque, n'est-ce pas? Et un lieu d'opération, c'est le mot qui est utilisé ici. Il ne faut pas donner un lieu d'opération dans la vie d'un croyant. Ou, puis c'est utilisé pour plusieurs autres situations, on parle d'un pasteur qui serait trop jeune, hein, qui manquerait d'expérience dans le Seigneur, au chapitre 3, versets 7 et 8, il dit c'est un danger, parce que c'est pas un pasteur, quand il est trop jeune dans la foi, il va avoir une emprise facilement sur lui, l'ennemi. Il va être plus vulnérable. Et il va mentionner ça aussi pour d'autres critères. Et pour ici, les femmes, il dit, placez-les pas dans cette situation-là, ça les rendrait vulnérables, ils auraient une place d'emprise dans leur vie, l'adversaire, Satan. Et là, il va parler de plutôt d'être maternelle, d'avoir des enfants et de diriger son foyer. Et là, je vous le traduis ici parce que ça, c'est intéressant. Le terme utilisé pour diriger son foyer, c'est une composition de deux mots qui veut dire maison et être maître. Oikos, maison, et despotes, duquel vous connaissez le mot despote. Vous savez que le terme despote est utilisé à quelques occasions dans le Nouveau Testament pour parler du grand despote, de Dieu. C'est le despote. Nous, un despote, c'est quoi? C'est un dirigeant tyrannique, despotique, n'est-ce pas? On mettrait plus l'étiquette de M. Poutine, mettons. Pas la Poutine, je parle du président Poutine, là. OK? Il cadrerait là dans un despote. Donc, un dirigeant qui est pas démocratique puis qui fait ce qu'il veut. Mais le mot « despote » ne veut pas dire ça, mais il est devenu ça dans notre langage. Mais Dieu est identifié comme « despotesse », le despote, c'est-à-dire celui qui est souverain, qui contrôle tout. Mais c'est notre Père Céleste, il contrôle bien. Donc « despote » n'a pas une connotation négative de la langue grecque. Mais dans notre traduction aujourd'hui, l'usage de « despote »,« despotique », ce n'est pas positif. Et là, il dit que les femmes soient le despote de maison. Alors que tous les hommes se tournent vers leur femme et disent « Oh, despote de mon foyer. » Hein, Marco, il est hésitant. Il dit « Attends, tu peux moi y réfléchir si ça vient vraiment du Saint-Esprit, ce qu'il dit là. » C'est le seul endroit qu'on retrouve cette expression-là pour les femmes. Il est utilisé, mais sous une différente catégorie, on va dire. Mais pour décrire, à 12 fois dans les évangiles, on parle du serviteur en chef d'une maison. Lorsqu'un homme est riche, il avait un serviteur en chef. On l'appelait le chef de maison. Et c'est ce terme-là qu'on utilise. Celui que, finalement, comme Joseph faisait chez Potiphar. Il était le chef qui dirigeait tous les serviteurs et tout passait par lui dans la maison. Le chef de maison, l'homme donnait à lui la gestion de la cuisine, des champs, de ci, de ça, l'approvisionnement, c'est un riche. C'est le même terme qui est appliqué à une femme qui dirige dans sa maison. Elle est ingénieure domestique. Elle gère tout ce qui a rapport avec la maison. Et essayez, des fois, et vous le savez les hommes, il y a des secteurs dans la maison, si tu donnes ton opinion, T'es peut-être mieux pas. Pourquoi? Parce que elle sait ce qu'elle fait dans sa maison. Elle gère son foyer. Elle sait qu'est-ce qu'elle a besoin de l'approvisionnement. Elle sait quand est-ce telle chose doit être faite. Elle sait quand est-ce ça arrive. À tel moment, elle maîtrise la gestion de son foyer. Elle est donc, naturellement, la despote de la maison. Hein? Mais dans le sens positif du mot despote, messieurs. N'utilisez pas ce terme hors contexte. OK? Et donc, il est normal, et c'est sa zone de régner. C'est là qu'elle exerce son ministère, qu'elle dirige, qu'elle sait ce qu'elle fait. Et, messieurs, quand madame est malade, puis que tu faut que tu gères toute la maison, c'est là que tu réalises que, ouais, je suis un peu perdu dans tout ça, je sais pas trop où aller, puis finalement, elle revient à la madame, il faut qu'elle reprenne ce qui n'a pas été fait pendant la période qu'elle était malade. Fait qu'elle aussi, elle a du overtime, comme quand vous allez quand on revient au travail, messieurs, mesdames. Puis là, on disait, j'ai été parti en vacances une semaine, mais finalement, tu te rends compte que tu payes pour ta semaine de vacances. Mais la femme qui est malade, elle sent de même. Elle sent qu'elle paye pour le temps qu'elle était malade, parce qu'elle rattrape ce que le monsieur n'a pas été capable de faire pendant qu'il était parti, parce que là, il essayait juste de réussir à faire le minimum pour arranger, puis c'était pas évident, puis il en a échappé. Puis c'est correct. Ça nous fait apprécier toute la partie du rayonnement qu'on a besoin en tant qu'être complémentaire. On se complète l'un l'autre. Et ici, il n'est pas en train de réduire le rôle de la femme, de dire qu'elle ne peut pas travailler en dehors du foyer, mais que son foyer, c'est une priorité, et que le travail à l'extérieur du foyer ne devrait pas être quelque chose qui vienne empêcher son rôle maternel, dans lequel Dieu veut qu'elle s'épanouisse. Puis chaque femme va l'exprimer différemment. On n'a pas à être comme l'autre. Vous savez, même dans la loi, vous savez qu'il est prévu dans la loi. Quand je fais des mariages, je dois toujours réciter quelques passages de la loi. Et on le dit dedans que l'un ou l'autre des membres du foyer peuvent s'acquitter de faire leur tâche par un travail au foyer. C'est prévu dans la loi que si un homme et une femme décident qu'il y en a un des deux qui va rester à la maison pour prendre soin des enfants pendant une période X, c'est prévu que c'est normal et que ça fait partie d'un travail complémentaire de couple et que c'est prévu même dans la loi. Vous saviez ça? Moi, je lis à tous les mariages, fait que j'ai dû l'apprendre. Et donc, Paul dit, c'est important que le rôle féminin soit respecté, valorisé. Qu'on le regarde, messieurs, elle disait, c'est correct, elle a une sphère qu'elle doit diriger, on est en équipe, on se complète, et c'est normal qu'il y ait une sphère qui est plus équipée que moi pour dire, non, ça, puis ça, non, regarde, il y a ça, OK, tu sais, puis chacun a notre zone pour travailler en équipe. Et qu'elle soit la despote de maison, fait partie de l'ensemble de l'œuvre que Dieu a faite et que Paul ici mentionne, entre autres. Évidemment, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Je ne veux pas aller dans les méandres de toute cette discussion-là, mais tout simplement, vous soulignez ici les grandes lignes qu'il est en train de dire, et il termine en disant ceci, « Car il en est déjà quelques-uns qui se sont égarés en suivant Satan. » Il y en a qui, ayant pas pris ça au sérieux, ayant pris des engagements trop vite, ayant minimisé des choses, ayant manqué d'occupation et pas vu certaines choses qui sont importantes ici pour la protéger, bien, ils se ramassaient à se faire égarer, à tomber dans les bras d'un homme peut-être qui n'avait jamais pensé qu'il tomberait dans les bras, etc. Et il dit, ça fait un mauvais témoignage. Si une croyante a des veuves dans sa famille, et là, ça fait beaucoup jaser, pourquoi c'est une croyante, je ne sais pas. Je vous avoue, il y a beaucoup de commentaires qui font des commentaires là-dessus. Je ne sais pas, mais ici, il s'adresse aux femmes. Si une croyante a des veuves dans sa parenté, qu'elle les assiste. Il ne faut pas que l'Église en ait charge afin qu'elle puisse assister celles qui sont réellement veuves, qui font partie de ce groupe restreint de femmes qui n'ont personne pour les aider, qui sont au-dessus de 60 ans, qui sont fidèles dans leur ministère, qui ont un bon témoignage et qui, eux autres, vont avoir le soutien de l'Église parce que c'est un groupe réduit, qui sont désavantagés par leur âge, par le fait qu'ils n'ont personne dans la famille pour les aider, qui n'ont pas eu d'enfants ou qui sont déjà trépassés, etc., ou qui sont loin dans un autre pays. Et l'Église va se concentrer à prendre soin de ceux que c'est essentiel, mais qui ont un bon témoignage. Donc, il y a une sélection ici liée aussi au caractère chrétien et sachant que ces femmes-là vont avoir un rayonnement dans l'Église qui est vraiment, vraiment important. On termine comment tout cela? Bien, juste trois observations. Premièrement, la Bible nous invite à honorer. Et je nous le rappelle en terminant, le Seigneur nous invite à suivre le commandement de honorer nos parents, honorer la personne de la veuve est un élément essentiel ici. Dans une société où ce que tout est pris en compte quasiment, Où est-ce que là, maintenant, on a évidemment assurance chômage, rente pour les veuves, on a des endroits de bienfaisance, on peut avoir des jobs pour les personnes âgées, des emplois à mi-temps, etc. On peut facilement oublier notre responsabilité de prendre soin qui nous revient. Et c'est important, c'est un piège, la situation qu'on a dans notre société, mais ça doit être tout simplement en équipe qu'on le fait et non en larguant notre responsabilité aux autres, même si ça peut nous coûter. Il y a une expression que j'ai relevée et qui est assez intéressante et qui montre le défi des fois que ça peut représenter tout cela. Je vous lis à l'instant, si je le trouve à l'instant, mais ça peut arriver, oui. Un proverbe intéressant dit ceci, qui a été écrit en disant qu'un homme est capable de pourvoir pour 10 enfants, tandis que parfois 10 enfants ne peuvent pourvoir pour un père ou pour une mère. Et quand je l'ai lu ça, je dis, ouf, c'est-tu pas pertinent un peu, ça? Oui, on n'est pas toujours 10 enfants, mais quand même. Si un homme, une femme, ensemble, était capable de pourvoir à 3 bouches, 4 bouches, 5 bouches, pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de travailler en équipe et d'être de ceux qui honorent Dieu en mettant cette priorité d'honorer la personne des parents, la personne de la veuve, comme les Écritures nous invitent à le faire. Deuxièmement, chercher la volonté de Dieu, c'est parfois complexe. On a besoin d'aller dans la prière et chercher la face de Dieu pour des décisions liées des fois au médical d'une veuve, d'un parent, des problèmes de handicap, de mobilité qui est réduite. Et il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. On ne va pas se le cacher. Des fois, tu ne peux plus avoir une personne à la maison, tu dois aller vers des soins, tu dois demander puis têter pour des soins à domicile. C'est pas toujours évident. Il faut que quelqu'un fasse des... Et là, après ça, il faut aider des fois pour les finances. Ça faisait des années que ma tante, mon père avait dû prendre des finances avec ma mère depuis 6-7 ans. Elle pouvait pas s'occuper de ses finances. Ça demande des engagements importants. Et chaque décision, tu dois le faire avec sagesse et demander à Dieu. Seigneur, c'est quoi ta volonté? De prier ensemble là-dessus. Plus important est que les croyants montrent de l'amour et de l'intérêt sincère pour tous ceux qu'il est possible de faire à l'égard de ces dames vulnérables. Je vous lis cette citation que je trouvais pertinente. Mon père a fait un papier sur le sujet il y a de cela 17 ans. Et on a tous les deux assisté à un même cours et on a tous les deux fait un travail différent dans Timothée. Et je relisais ses notes et il dit ceci. Notre motivation ne puise sa source, premièrement, ni dans les responsabilités sociales, ni dans quelconque culpabilité qu'on voudrait s'imposer ou nous mettre, ni dans le désir de redonner ce qu'on nous a donné, strictement, mais que tous ces motifs soient louables, mais dans le désir premier d'imiter une des caractéristiques de Dieu le Père, protecteur des démunis. Père, dans Psaume 68, Père des orphelins, de la veuve. Si c'est une priorité pour Dieu, ce doit l'être aussi pour nous comme peuple de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce d'être fidèles, d'en prendre soin et de montrer que l'Évangile est entré parmi nous et que l'Évangile nous donne cette aspiration fraternelle de prendre soin. Que Jésus a vu bon de nous pardonner et de pouvoir à tout ce qu'on avait de besoin. Merci. Tout ce qu'on avait de besoin pour remplir ce défi. Avant de terminer la prière, on aime prendre le temps à l'offrande d'amour qui est partielle, évidemment, ce matin. Vous aurez tout le mois prochain pour donner. On sait aussi qu'une majorité des offrandes ne vient pas par des offrandes données de main en main, mais qui sont données dans les dépôts directs. Mais déjà, juste ce matin, en offrande générale et en offrande d'amour, il y avait 8 000 $, dont plus de 5 000 juste pour l'offrande d'amour. En vous rappelant que tout cela va strictement à l'évangélisation à 70% et l'autre pour ouvriers en formation. C'est le rayonnement dans la communauté, c'est l'émission de radio, est-ce qu'on va continuer pendant l'été ou pas, c'est la fête foraine après l'été, c'est les fermiers chrétiens, c'est 4 000 $ pour aider les fermiers chrétiens à faire de l'évangélisation sur chacun des festivals qu'il va y avoir dans la région. Il va y avoir un endroit où il y a des Nouveaux Testaments, des évangiles, des évangélistes vont apporter par des dons toutes sortes. Et donc, tous ces sous s'en vont vraiment pour le rayonnement donne à la communauté et aussi pour l'avenir de l'Église dans la formation d'ouvriers. Et donc, vous aurez tout le mois de juin jusqu'à la fin de juin pour écrire OSA, offrande spéciale d'amour, pour donner à cet effet. Je vous invite à prier avec moi alors que l'équipe vient terminer avec un chant. Courbons-nous devant le Seigneur qui nous accorde de mettre en pratique sa parole et de ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, notre regard s'en va vers ton Fils Jésus. Ô Père Céleste, ton Fils a marché parmi nous et nous a donné un modèle, pas juste à imiter. Il nous a donné strictement, avant tout, un modèle de comment aimant et attentionné notre Père Céleste est. Puissions-nous, Seigneur, marcher à la suite de Jésus, par l'Esprit de Jésus en nous, par l'Esprit Saint, par le message de l'Évangile de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés par son sacrifice, et que la vie de Jésus soit en nous pour être ces hommes et ces femmes de Dieu qui prennent soin des nôtres, qui honorent la personne de la veuve, qui valorisent dans l'Église le rôle des femmes, qui respectent et admirent et mettent de l'avant, Seigneur, tous leurs capacités, leurs talents, leur clairvoyance et leur rôle clé dans notre société. En équipe, hommes et femmes, complémentaires, en équipe pour honorer nos aînés, nos parents, nos veuves, nos personnes vulnérables. Oh Seigneur, aide-nous. On a besoin de toi, Seigneur, ce matin. On veut te prier d'encourager ceux et celles qui sont dans cette vulnérabilité ce matin et qui ont besoin d'encouragement, qui se sentent seuls. Que, Seigneur, tu prennes toute la place dans leur cœur pour les soutenir et qu'ils soient ces femmes de Dieu qui prennent soin avec leurs capacités, qui sont fidèles à demander, à supplier à Dieu, à intercéder pour les besoins de cette société et surtout de la famille de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à se respecter les uns les autres dans la famille comme frères, sœurs, comme oncles, tantes, comme pères, mères, dans un souci fraternel. Et tout cela, Seigneur, est seulement possible par ton Fils Jésus. Que l'Évangile soit vécu parmi nous, Seigneur. Je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.